Frères et sœurs bien-aimés, la parabole bien connue que nous venons d'entendre est intitulée communément la parabole du Fils prodigue. Sans doute parce que nous nous identifions bien davantage à ce jeune fils qui s'est éloigné de Dieu son Père. Pourtant, là où le Seigneur veut attirer notre attention, c'est sur la figure de ce père de famille qui est comparable à Dieu le Père, dont le Seigneur Jésus parle très souvent. En effet, il a fait précéder cette parabole de deux autres, celle de la brebis perdue, dont le berger laisse les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis égarée, puis celle de cette femme qui a perdu une pièce de grande valeur, qui allume sa maison, convoque ses amis pour l'aider à la retrouver. Quelle joie quand la brebis perdue ou la pièce d'argent sont retrouvées. Et le Seigneur, toujours de conclure, puisqu'il veut nous entretenir du cœur de Dieu, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. De telle sorte que dans cette parabole, c'est le Père qu'il nous faut d'abord examiner. Un Père aimant, un Père qui souffre de voir ainsi son Fils lui réclamer sa part d'héritage comme s'il était mort. Mais un Père patient, dont l'Ancien Testament nous dit qu'il est lent à la colère et plein d'amour, qui, sans connaître le jour ni l'heure où son jeune fils finira par revenir, attend, attend et attend encore qu'au loin, il revienne vers lui. Et vous avez entendu, lorsque le fils prodigue, de loin, ayant perdu sa superbe, se met à avancer lentement pour revenir chez son père, celui-ci le voit, le reconnaît et s'élance à sa rencontre, non pas pour lui donner une bonne correction qu'il aurait méritée, mais pour l'accueillir, car le père était inquiet de savoir son fils si loin, inquiet de savoir son fils livré ainsi au chemin de perdition. « Mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Mon fils, que voilà, était perdu, et il est retrouvé. » Et nous sommes alors invités à entrer dans la joie de Dieu notre Père. Dans l'Évangile dimanche dernier, et dans les termes les plus vifs, notre Seigneur nous exhortait à la conversion. Eh bien voilà ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsque nous décidons de revenir enfin vers lui, lorsque nous ne détournons plus le regard, mais que nous contemplons la face du Père, sa justice bien sûr, mais également sa miséricorde, car tout cela procède de l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, un amour qui fait qu'il nous enverra son propre Fils pour venir nous sauver du chemin de perdition, pour venir nous sauver de la mort qui n'est que la conséquence de nos péchés. Bien sûr, le Seigneur développe cette parabole et avec beaucoup de psychologie spirituelle nous permet de mettre en place deux fils et le Seigneur de fustiger le fils aîné qui est comparable à ces pharisiens, à ces scribes, qui non seulement ne reconnaîtront pas le Seigneur Jésus malgré les signes et le bien qu'il fait, qui ne finiront par même ne plus accueillir les pécheurs. Qui a dénoncé le péché du jeune fils? Est-ce le Père? Le jeune fils a dénoncé publiquement le péché de son frère. Il a dépensé cette fortune avec des prostituées. Le Père, lui, a accueilli son fils. Et c'est une tonalité fondamentale que notre monde, qui n'est plus chrétien, a bien oublié. L'on a toujours distingué le péché et le pécheur. Pourquoi? parce que le pécheur n'est pas réductible à son péché. Le nombre de procès médiatiques que l'on peut faire contre telle et telle personne en raison d'un péché. Eh bien, ce n'est pas cela que fait l'Église. L'Église condamne fermement le péché, mais accueille toujours le pécheur. Le curé d'Ars le résumait en ces termes : le prêtre doit être en chair un loup féroce qui dénonce le péché, mais au confessionnal, il doit être un agneau pour accueillir le pécheur. Oui, ce fils aîné est comparable aux pharisiens qui ne comprennent pas comment et pourquoi ce Jésus peut faire un bon accueil aux pécheurs. Est-ce qu'il serait d'accord avec leur péché, avec leur vie de désordre ? Non. Mais le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants ni pour ceux qui s'estiment justes. Il est venu pour les malades et les pécheurs que nous sommes. Alors nous contemplons bien sûr le fils prodigue, celui qui a pensé, dans la toute-puissance de sa jeunesse, aller enfin vivre loin de son père. Et voilà qu'une fois qu'il a dépensé tout son bien, il se met à connaître quelque chose qu'il n'a jamais vécu, connaître la faim véritable, celle de son estomac qui grouille, de son vide. Et voilà qu'il va trouver un emploi, le pire emploi que peut trouver un juif. Garder des porcs. Mais le porc, c'est l'animal interdit, c'est l'animal symbole de l'impureté. Et voilà que dans son péché, il en vient à garder des porcs et il en vient même à désirer les gousses dont se délectent les porcs en ce temps de famine. Alors le Seigneur nous dit très justement que le jeune fils, avant d'entrer chez le père, que fait-il ? Il entre en lui-même et au sein de sa conscience, avec l'amour de Dieu et la lumière de sa loi, il fait la vérité en lui-même et se rend compte du désert qu'est sa vie, du désastre auquel il s'est adonné avec frénésie. « Je retournerai chez mon père, dit-il. Je ne suis plus digne d'être son fils, c'est évident. » Mais comme il sait que son père traite bien les ouvriers, peut-être acceptera-t-il de l'embaucher. Mais vous avez vu combien Dieu le Père restaure le lien de filiation avec son fils. Il lui passe même la bague au doigt, symbole de l'alliance. Il a donc ce projet de revenir vers son père, conscient à la fois qu'il a offensé sa famille, mais également le ciel, car chaque fois que nous péchons contre tel ou tel, c'est toujours contre Dieu que nous commettons le péché. Et bien voilà qu'il s'élance. Oh, c'est pas la marche triomphante du héros, mais c'est celle du fils qui reconnaît son péché et qui vient faire amende honorable, et qui a dû être dérouté par l'accueil miséricordieux de son père. Mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. En ce temps du carême, nous cheminons, nous aussi, frères et sœurs, de la mort à la vie. Le Seigneur, en nous invitant aux jeûnes, nous invite à connaître ce qu'est la faim pour peut-être rentrer en soi-même et, à la lumière de sa conscience, nous aussi aller vers le Père, le curé, le vicaire pour recevoir le sacrement de la confession. Car c'est là, chrétien, c'est là que le Seigneur opère les transformations nécessaires à la vie de ton âme. C'est là que le Seigneur vient apporter la lumière et la force de sa grâce puissante afin de ne pas céder aux innombrables tentations de ce monde. Saint Paul nous l'a dit, il nous faut aller trouver les ambassadeurs de la miséricorde de Dieu. Les prêtres se confessent, le pape lui-même se confesse, car nous savons qu'ici-bas, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Nous allons suivre de près le Seigneur dans les mystères de sa passion. On va le voir ainsi être humilié, craché au visage, attaché à la colonne, silencieux, recevant ses coups de fouet, portant la croix, expirant, étouffant sur le bois de la croix. Qu'est-ce qui étouffe le Christ ? Nos péchés et l'indifférence avec lesquels, moi le premier, nous pouvons vivre avec ses fautes. Nous avons donc chacun à retourner vers le Père, à nous convertir, car c'est là que Dieu trouve sa joie. Il met sa joie dans nos faiblesses parce qu'il vient nous donner la force qui vient nous relever. Tel est le mouvement de ce carême. Et si nous ne nous confessons pas, si nous ne confessons plus, cela veut dire que petit à petit, la vie de notre âme s'étiole, notre cœur s'endurcit et nous finissons par être comparables au fils aîné à ne même plus comprendre pourquoi le Seigneur Jésus, pourquoi Dieu peut faire bon accueil aux pécheurs. Lorsque la bienheureuse Vierge Marie est apparue à la grotte de Massabielle, elle n'a pas choisi ce lieu au hasard. Elle, qui est la toute pure, a choisi le lieu où l'on gardait les porcs, symbole de l'impureté. En effet, la grotte de Massabielle, quelques mois encore avant les apparitions, était la tute aux cochons. Samson, le porcher, venait au jour d'été à 10h du matin récupérer les différents porcs de la ville de Lourdes pour les faire descendre aux rives de Massabielle. Eh bien, voilà que ce lieu, symbole de l'impureté, est celui où la Vierge Immaculée, la toute pure, vient nous appeler. Le même appel à la conversion. Elle n'était pas vêtue d'une tunique en poil de chameau, ne portait pas une ceinture de rein autour des cuirs, mais sa robe blanche et sa ceinture bleue. Mais elle reprend avec vivacité l'appel à la conversion lancé par Jean-Baptiste. « Priez Dieu, nous dit-elle, pour la conversion des pécheurs. Priez donc pour moi, prions donc les uns pour les autres, pour que notre cœur change, parce que c'est en changeant notre cœur que notre paroisse, notre Église, notre France et notre monde changeront en revenant de tout leur cœur vers notre Dieu, Créateur, Rédempteur, qui au dernier jour sera notre juge. Puisse-t-il être miséricordieux à notre endroit, ainsi soit-il.